Merci à Alain de venir pour le message. Amen.
Bonjour à chacune et à chacun. On a quand même de la chance d'avoir des bons groupes de louanges dans notre église. On peut vraiment les applaudir. Merci. Merci, Marianne. Bien aimé. Et ça fait tellement du bien de pouvoir se situer dans cette atmosphère de louange. On vient ici d'abord pour, bien sûr, pour rencontrer le Seigneur, mais ensemble, n'est-ce pas? Et moi, je vous écoutais chanter, mais vous chantez de mieux en mieux. Je pense qu'il y aura une chorale de l'église de réveil dans le ciel. J'ai l'impression. Enfin, une chorale. Enfin, on se comprend. Un groupe de louanges. Ça y est. Les années passent, oui. Voilà. J'aimerais encore vous souhaiter à tous une bonne année, parce que c'est encore juste la limite, là. Après, à partir du 16, on y est vraiment. Donc, vraiment, que ce soit une année bénie pour chacune et chacun, et que ce soit aussi une année de progression pour chacun, dans le Seigneur, bien sûr. Il y a tellement de choses encore à découvrir et à expérimenter. Moi, je sais que je ne vais pas m'embêter cette année. Amen. Et vous non plus, certainement pas. Alors, on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, c'est Jésus qui parle à partir du verset 15, Jean 17, 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et un deuxième passage qui se trouve dans l'épître aux Philippiens, Philippiens au chapitre 2 et verset 15. Philippiens 2, 15. Je vais dire depuis le verset 14. « Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Alors s'il y avait des scouts ici, ils chanteraient « Priez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Qui aimerait être scout? Moi, à ma retraite, je vais organiser un camp scout pour les troisième âge. On va aller à la chasse, On est au début d'une année, et vous savez tous que la vie sur Terre est faite de cycles. Dans l'univers aussi, d'ailleurs. Chaque début d'année, on sait qu'on commence un nouveau cycle de parfois 366, de 52 semaines et de 12 mois. Alors, bien sûr, on peut traverser tout cela, tous ces cycles, sans s'en préoccuper et dire comme certains, « Oh, il n'y a rien de nouveau sous le soleil » ou bien « Mangeons et buvons pendant qu'il est temps ». Toutes ces histoires-là, moi, ça ne m'intéresse pas. On pourrait faire comme si de rien n'était. Pour ma part, je crois que si Dieu a créé des cycles, c'est suite ininterrompue de phénomènes qui se renouvellent de façon immuable, donc les saisons par exemple, c'est un don et une grâce de Dieu à l'égard de toute la création, à ton égard, à mon égard. Imaginez un seul instant, si tout changeait d'une semaine à l'autre. On passerait de l'hiver au printemps, du printemps à l'automne, il ferait froid pendant 6 mois, chaud pendant 6 mois. Ça serait invivable, ça serait intenable. Donc si Dieu permet ces cycles, c'est aussi pour me donner de m'arrêter. Un cycle, ça a un début et ça a une fin. Et puis à la fin d'un cycle, l'idéal, ça serait un peu comme la nature qui nous enseigne. Tranquille. Arrête-toi, réfléchis un petit peu à qui tu es, à ce que tu as fait, à ce que tu as vécu. Prends le temps de réfléchir, de penser à ces choses. Il y a des gens qui traversent la vie à 200 à l'heure, ils savent quand ils ont commencé, ils savent quand ils finissent, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé entre deux. Dieu a créé des cycles. Et on arrive à la fin d'une année et on en commence une nouvelle. Et on peut faire le bilan. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous arrêter. C'est vrai que dans le monde effréné dans lequel on vit, on a de moins en moins de temps et de possibilités pour dire stop. Puis quand on stop, on a tellement envie de stopper qu'on stoppe tout. C'est-à-dire qu'on ne fait plus rien. Et qu'on ne réfléchit plus, et qu'on ne pense plus, et qu'on ne se remet plus en question, et on ne tire plus un bilan du passé récent pour se dire comment est-ce que je pourrais faire mieux? Comment est-ce que je pourrais faire autrement? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Qu'est-ce qui fait la richesse de ma vie? Enfin, toutes ces questions qui font qu'on pourrait se construire. Le psalmiste, au psaume 90, verset 12, dit « Enseigne-moi à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse. » Lors du message du 11 décembre, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur notre site, vous savez que tous les messages de chaque dimanche, et merci à ceux qui sont à la table de mixage, d'enregistrement, bimère, et puis aussi à Pierre-Jean Monod, qui prend le temps de revisiter ces messages, de couper les hérésies, de couper les prises de position, de couper les rires de Marie-Joseph, enfin voilà, etc., etc. Si vous réécoutez ces messages, et celui du 11 décembre, vous rappelez que j'ai parlé de quoi? Ça fait une année déjà. Hein? Donc j'ai parlé des grandes idéologies. Hein, vous rappelez, les grandes idéologies qui ont profondément imprégné et bouleversé le cours de l'histoire du monde et de notre histoire, qui ont conditionné le comportement individuel et collectif, qui entraînent par centaines de milliers des hommes et des femmes, par millions même, ou des sociétés dans le meilleur, comme nous l'avons vu, mais hélas, souvent dans le pire. On pense aux idéologies marxistes, aux idéologies nazies, aux idéologies communistes, etc., etc., qui ont entraîné des centaines de millions de morts sur cette terre, des dévastations sans fin. Et ces idéologies sont comme des fleuves impétueux qui entraînent tout sur leur passage. Mais on n'en est pas vraiment conscient. On ne réalise pas qu'à un moment donné, elles naissent, elles produisent quelque chose, elles s'infiltrent dans la société, dans toute la société. Elles finissent par entraîner les pensées de la société dans une direction et elles produisent une culture. Et nous sommes dans une culture. Mais nous n'en sommes même pas conscients parce que franchement, le matin en se levant, je ne vais pas d'abord me dire « Attends, dans quelle idéologie je suis aujourd'hui ?» Non, je dis « Je vais prendre mon petit déjeuner, me brosser les dents. » Mettre ma cravate et aller au travail. Enfin, pour ceux qui en mettent encore aujourd'hui. Hein. C'est tous des relents du passé, hein, les cœurs, les cravates, tout ça. C'est la nostalgie. C'est église nostalgie. Voilà, je vais ouvrir une église nostalgie. Hein, où les messages duraient 3 heures de temps. Ouais, ouais, c'est vrai. Eh ben ouais, pour ma retraite, il faut bien que j'imagine des choses. Donc, ces choses-là dont je viens de citer, nazisme, communisme, etc., bien sûr que c'est du passé, bien sûr que, et heureusement d'ailleurs, mais nous sommes en 2017 et nous sommes toujours dans le monde. Tu es dans le monde. Même si tu es assis ici à l'église de réveil, nous sommes dans le monde et de nouvelles idéologies sont nées. Elles ont cours aujourd'hui dans la société dans laquelle je vis, dans laquelle tu vis. Et elles influencent, elles imprègnent la culture, elles influencent d'une manière incroyable. Nous sommes dans le monde, ne l'oublions pas. En 2017, nous sommes dans le monde. On va projeter le premier dia. Il y a une parole de Jésus à un moment donné, où il rencontre les pharisiens, les sadducéens, tous des hommes très intelligents de l'époque, qui savent mieux que tout le monde. Et à un moment donné, il va leur reprocher de ne pas discerner les signes des temps. Ils ne discernent pas en quel temps ils sont. Ils sont baignés dans leur religiosité, dans leur connaissance, coupés souvent du peuple, et puis ça baigne voilà, dans leur petite idéologie ambiante. Et il leur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Est-ce que tu discernes les signes des temps? Est-ce que l'Église discerne le signe des temps? Est-ce que nous discernons ensemble les signes des temps? Sans discernement, nous pouvons être aspirés, absorbés, submergés par les roulis de l'histoire. Vous êtes pris dans un truc et vous ne savez pas pourquoi. Vous vivez de cette manière parce que tout le monde vit de cette manière. Mais je n'ai pas réfléchi. Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que je vais dans le bon sens? Est-ce que j'ai pris les bonnes orientations? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que je fais les bons choix? Vous savez, le monde est sans pitié. Le monde est sans pitié. Il exerce une pression constante sur nous, sur notre manière de penser, sur notre manière d'agir, sur notre manière de vivre. L'esprit du monde, dont la parole de Dieu parle si souvent, derrière lequel se profile le prince de ce monde de ténèbres, ouh là là, le prince de ce monde de ténèbres, ne se fera pas prier pour saper, pour fragiliser, pour réduire, voire anéantir ta foi. C'est une évidence. Alors, encore une fois, on n'est pas en train d'y réfléchir à chaque instant, mais c'est une réalité. Et moi, je veux me situer dans la réalité du moment. Je ne veux pas être au Moyen-Âge. Je ne veux pas être déjà sur la planète un tel, parce qu'on va nous envoyer, enfin, pas nous, mais on va vous envoyer un jour des robots, je ne sais pas sur quelle planète, Ixus, là-haut. Moi, je veux être dans mon temps. Je veux discerner qu'est-ce qui se passe autour de moi, parce que ça a une influence dans ce que je vis. Ces paroles de Jésus doivent résonner en nous. Je les lisais ces derniers temps, je me disais, waouh, il était quand même sérieux avec ses disciples, hein, et avec ceux qui le suivaient. Ce n'était pas de la petite histoire. Matthieu 24, 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ouh, attends. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Je peux faire comme si de rien n'était. Hein? Page suivante. Luc 18, 8, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Oula, attention, hein? Et s'il revient après-demain ou, hein? Apocalypse 2, 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonner ton premier amour. Ouh, ouh, ouh. Waouh. Apocalypse 3, 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi parce que tu es tiède. Donc, toutes ces réalités-là, dans le monde dans lequel je vis, je dois les prendre en compte. Il y a le monde autour de moi et il y a ce que je fais moi dans le monde. Discerner les temps peut vraiment nous aider à relever les bons défis. Ces défis qui se présenteront à nous en 2017, afin d'éviter d'être emportés, hein, emportés par le courant de ce monde. Alors, question, qu'est-ce que tu discernes aujourd'hui? Moi, j'aimerais prendre des fois des soirées où voilà, on parle d'un sujet, et puis où chacun y va avec ce qu'il comprend. Avec ce qu'il sait souvent dans l'église, ben vous êtes assis, puis nous, on sait tout et on vous dit ce que vous devez croire. Non, on est quand même, on n'en est plus qu'à ce niveau-là. Mais cette espèce de dialogue sur des thèmes fondamentaux de la vie humaine, de tous les jours. Parfois, j'ai l'impression, voilà, excusez-moi, mais on passe un petit peu à côté ou par-dessus. Enfin bref, ce n'est pas le thème de cette matinée. Donc, qu'est-ce que je discerne, moi au début de cette année 2017. Quelle est l'idéologie dominante dans ce monde? Quelle est la culture dans laquelle je vis? Moi, ça m'intéresse. Vous pouvez me dire, ouais, mais attends, t'en as encore pour 4 mois, qu'est-ce que tu te fais depuis? Voilà, de la retraite, chaise longue, pied en éventail. Non. Moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. J'ai envie de savoir dans quel monde je suis pour me prémunir aussi. Pour avoir les bonnes réactions, pour avoir les bonnes pensées, pour savoir qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance pour moi, pour que je puisse l'accomplir. Je veux avoir les yeux ouverts, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, comme le disait Jésus dans Marc 8, 18. On peut avoir des yeux et ne rien voir. On peut avoir des oreilles et ne rien entendre. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai envie d'entendre, j'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre. 8 fois dans l'Apocalypse, il est dit « Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église, aux Églises. Ben, » si j'ai des oreilles bouchées, je ne vais rien entendre. Hein. Puis je me contenterai de ce que j'ai compris. Donc, discerner, c'est aussi prévoir. Si je discerne qu'il va pleuvoir dans les heures à venir, je vais m'habiller et me prémunir en conséquence. Alors, je ne veux pas refaire toute l'histoire des idéologies, hein, qui ont eu cours. Mais là aussi, si je me resitue dans l'histoire du monde, si je sors de mon petit cocon à moi, de mon petit bourrillon à moi, puis que je regarde avec un peu d'éloignement l'histoire du monde, mais je découvre des choses incroyables. Je vais commencer peut-être par comprendre qu'est-ce que l'esprit du monde ? Qui est-ce qui se cache derrière cet esprit du monde ? Ce fameux prince de ce monde de ténèbres. Alors, je ne vais pas refaire encore une fois toute l'histoire, mais juste vous situer, pour ceux qui n'aiment pas l'histoire, désolé, moi je me souviens à l'école, moi j'étais dans un autre monde, hein, quand il y avait l'histoire, j'étais là, bon. Mais moi ça m'aide à me situer, à voir, mais c'est quoi l'histoire des hommes ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui a dominé la pensée des hommes ? Qu'est-ce qui nous a amené à être là où nous en sommes aujourd'hui ? Et le fait de comprendre cela nous permet de faire des choix, et vous verrez, pas des moindres. Ce sont des choix de vie. C'est une manière de penser. C'est une manière de vivre notre éthique, notre morale. C'est un enjeu considérable. C'est quelque chose... Moi, quand j'ai commencé un petit peu de me replonger là-dedans, me dire, ah ben, tiens, ce bouquin, il est intéressant. Ça, et des fois, on ouvre un livre, après la 10e page, on a envie de le fermer, et puis voilà. Puis là, vous tombez dans un bouquin, ah, il vous dépeigne, waouh, toute l'histoire de l'humanité, comment les choses ont évolué. Alors ce matin, pour vous faire comprendre la chose, je vais vous parler du principe de l'entonnoir. Qui connaît le principe de l'entonnoir ? Où se trouve le principe de l'entonnoir dans la Bible ? Pas encore, hein ? Si on peut mettre le dia numéro 2. Donc pour comprendre l'esprit du monde. L'esprit du monde, qu'est-ce qu'il a fait avec un entonnoir ? Pourtant c'est simple un entonnoir. Hein ? En général, qu'est-ce qu'on utilise un entonnoir pour transvaser un liquide dans une bouteille par exemple, ou dans votre réservoir par exemple. Hein ? Donc c'est archi simple, hein ? Il ne faut vraiment pas avoir fait l'université pour utiliser un entonnoir. Mais vous verrez que le fait de mal utiliser un entonnoir peut avoir des conséquences incommensurables sur le monde, sur l'histoire, sur les nations, sur ta vie. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est la réalité, et vous le verrez. Donc, si on part du principe qu'il y a l'histoire, hein, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, on voit que l'humanité est séparée de Dieu, a continuellement essayé de chercher des moyens de se situer dans son histoire. Hein. Donc elle aurait pu se soumettre à celle de Dieu, mais elle ne l'a pas fait, commençant par Adam et Ève. Et puis c'était exponentiel. Hein. Quand on fait une erreur, en général, s'en produit une deuxième. Et la deuxième erreur en produit quatre, et les quatre en produisent 16. Donc on fait une suite d'erreurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le temps ? Si on prend l'entonnoir, le monde, pendant toute une longue période, s'est trouvé, alors ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ces mots, hein, si vous faites de l'histoire à l'école, on va vous parler des temps prémodernes. On ne va pas remonter plus avant, mais de l'Église primitive au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était comme une espèce de grand couloir. Hein. La société s'est forgée une espèce de grand couloir, un grand canal. Dieu est au centre. C'est le théocentrisme. Tout est focalisé sur Dieu jusqu'au Moyen-Âge. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que les pouvoirs de l'Église et de l'État font qu'ils réfléchissent pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde doit croire la même chose. Et c'est clair que l'Église catholique romaine dominante a tout fait pour. Hein ? L'histoire nous le rappelle, c'est une évidence. Donc tout est dominé. La vie terrestre n'est qu'une étape. Ce qu'il faut faire, c'est te préparer pour le ciel. Alors c'est très bien, hein, nous on le fait aussi, on se prépare aussi pour le ciel, mais c'est la manière de le vivre. Et pendant tous ces siècles, les sociétés, les êtres humains ont dû se soumettre, ont dû obéir, ont dû croire parce qu'on dit noir, c'est noir, parce que quand on dit blanc, c'est blanc, et il n'y a rien entre deux. La terre est plate, que ça vous plaise ou non. Mais non, elle est ronde. Non, elle est plate. Attention, tu vas te faire aplatir si tu dis que la terre est ronde. Ça ne joue pas. Donc imaginez les consciences, imaginez les sociétés. Puis, bon, la société occidentale était la principale quand même, même s'il y avait des grandes civilisations un peu ailleurs. Mais elle dominait. Et pendant toute cette période, ben, c'était un peu comme dans un canal, hein, comme dans l'entrée de cet entonnoir. Vous comprenez l'image un peu là? Mais on en a sec, on en a ras-le-bol, on veut s'émanciper, fini ce commerce, il faut que ça change. Donc il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui réfléchissent, puis il y a des gens qui aiment bien être dans un état de rébellion un peu. Hein. Donc on veut être vizir à la place du vizir, donc il faut bien le faire tomber le vizir, il faut bien faire quelque chose. Donc on pense, on imagine et on crée des idéologies. C'est les temps modernes, du 16e au 18e. Alors, ça s'ouvre un peu, hein. Pas encore trop, mais ça s'ouvre quand même un peu. Hein. À partir de 1500, c'est des grandes transformations qui vont s'opérer dans toute la société. Pourquoi ? Ben parce qu'on commence de voyager et on commence de découvrir au travers de ces voyages d'autres continents. L'Amérique, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Asie lointaine, tout ça, c'est extraordinaire. Des nouvelles cultures, des nouvelles religions, des nouvelles coutumes. Ah tiens, on ne pense pas comme nous. Ah tiens, on ne fait pas comme nous. Ah, c'est différent. Mais pourquoi est-ce que nous, on fait tous comme ça ? Vous voyez là, ça cogite, hein, ça y va là-haut, hein, ça turbine. Puis après, il y a l'ancienne civilisation grecque aussi, on l'avait oubliée celle-là, parce que ben voilà, dans le Moyen-Âge, tout ça, comme tout était centré sur la pensée, encore une fois chrétienne, mais d'une manière tellement oppressive que les gens, ils en avaient ras-le-bol de cette religion. Hein. On peut le comprendre dans un certain sens. Alors il y a l'ancienne civilisation grecque qui vient de nouveau, qui revient au galop, à la lumière. Hein, hein. Et on parle d'autonomie. C'est un petit mot comme ça qui a l'air de rien, l'autonomie. Mais qu'est-ce que ça veut dire être autonome, qui se donne lui-même des lois? Donc, je n'ai pas besoin de toi pour me donner mes... Mais qui, pour qui tu te prends, toi? Et puis, toi, le pouvoir, là, tu nous donnes... Non, mais attends, moi, je suis... Ah, on peut être autonome. Ouh, ça ouvre une sacrée porte. Hein. Vous voyez comment on avance dans le tunnel? Puis on commence de voir poindre la lumière, on se dit « Ouh, enfin, on va sortir de l'obscurantisme, puis on va y voir un petit peu plus clair. » Vous voyez cette poussée? Vous saisissez là ou bien je suis en train de... Non, hein, ça va, hein. Vous me dites, hein, vous levez la main, hein, la bonne. Hein. Et puis après, il y a l'humanisme. Parce que d'une idée à l'autre, d'une idéologie à l'autre, ça fait des petits, ça crée des choses nouvelles. Et qu'est-ce que va faire l'humanisme? Il y a des bonnes choses dans l'humanisme, mais... On va plus penser à Dieu. Bon, on croit toujours que Dieu existe, hein. Ou attention, il faut quand même, parce que les foudres de, hein, parce que quand vous avez vécu comme ça pendant 14 siècles, hein, puis se dire on va changer les paradigmes, les grandes vérités. Est-ce qu'on ose bouger les grandes vérités ou pas? Qu'est-ce que ça fait si je bouge une grande vérité? Est-ce que tout s'écroule? Ou est-ce que je peux partir sur une nouvelle pensée? Donc l'éternité, qui était au centre, hein, de la société, est mise de côté. Elle quitte le centre des préoccupations. Hein. C'est l'homme qui est placé au centre. Enfin! Alors voilà, je cite Protagoras, enfin, c'est Platon qui en a parlé. L'homme est à la mesure de toute chose. Moi, président. Non mais, l'homme est à la mesure de toute chose. Hein. Puis après, vous avez René Descartes, qui est quand même un philosophe quand même, hein, hyper connu, hein, au XVIe siècle. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Cogito ergo sum. Ça veut dire quoi? Mais ça ne veut pas dire ça veut dire quoi. Hein. Cogito ergo sum, ça veut dire je pense, donc je suis. Waouh, voyez? Vous prenez conscience de l'évolution dans laquelle l'humanité entre? On déplace l'éternité, puis on dit, attends maintenant, ah stop, je vais penser un petit peu à moi. Ah tiens, j'ai un petit bourrillon là, je vais penser à mon petit bourrillon. Hein. L'homme est au centre. Jean-Jacques Rousseau, oh lui, hein. Mais l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Mais oui mon chéri, viens vers papa. Et après il crie, et puis il tape. Mais oui, mais l'homme est bon. Voilà. Mais vous voyez l'évolution? Ben, tout ça, ça finit par se disséminer même dans les gens les plus simples. Quand quelqu'un qui est simple dit « Moi, je suis autonome, bof, dans la révolution ben, », il y va, il fait la révolution. Parce qu'il est autonome, parce qu'il se crée ses propres lois. Mais ça, c'est une révolution. Nous, on y est, puis on dit « Mais oh, c'est la norme ». Mais pas du tout. C'est une révolution de palais. Le moi devient le principe, le centre de l'univers, l'homme pensant, l'homme autonome, l'homme rationnel. J'ai la capacité de réfléchir. Donc si je réfléchis, si je pense, je suis, et puis je vais pouvoir créer des choses, donner naissance à des choses nouvelles. Et puis on entre alors dans le siècle des Lumières, 18e siècle. Ah, 18e siècle, ça c'est la totale. Hein. L'âge de la raison. L'âge de la raison. C'est la raison qui domine. Je crois ce que je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? Quand on parle avec les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Je crois seulement ce que je vois, c'est-à-dire ce que je peux comprendre. Mais on y est en plein dedans et ça a commencé au 18e siècle. Non, non, la culture n'a pas d'influence sur ma vie. Non, non, les idéologies, moi, oh là. Mais on est en plein dedans. Si je réfléchis comme ça, on va où? Je crois que ce que je peux comprendre. Oh mon Dieu, je ne vois pas, je ne comprends pas, j'y crois pas. Mais enfin, c'est archi simple quand on le dit comme ça. Hein. Donc, attention, on ne nie pas l'existence de Dieu. Hein, on a juste mis de côté un petit peu, là, tranquille. Hein. Vous savez, c'est comme les ados. Hein, vous avez remarqué, pendant plein d'années, quand on entrait dans leur chambre, « Papa, viens jouer avec moi au camion. Papa, viens jouer avec moi à la poupée. » Puis d'un coup, il dit, « Papa, sors de la chambre. » J'ai ma copine qui arrive à 14 heures. Ben, on dit ça à Dieu, hein. On dit, s'il te plaît, tu quittes la pièce, qu'on puisse enfin réfléchir par nous-mêmes. Tu nous as rendus intelligents, tu nous as donné la capacité de penser. Or, s'il te plaît, voilà. C'est un peu ce qu'on dit à Dieu. C'est une crise d'adolescence. Vous voyez où on est? Là, hein, voilà. On voit la sortie. Waouh, l'air libre, les grands pâturages. Hein, on y va. Et on est persuadé à ce moment-là, 18e siècle, fin du 19e aussi, on est persuadé que par la raison, par mon intelligence, on va pouvoir découvrir des choses dans l'autonomie qui est la nôtre, qui vont produire pour toute la société l'harmonie et le progrès. Moi, président. Ah ouais. Et on en était persuadé. Alors, ça serait trop long de voir, mais c'est franchement intéressant, hein. Prenez le temps de voir ces personnages qui se succèdent dans l'histoire et qui, c'en est un, qui dit une chose et toute la société en est imprégnée. Pouh là 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 là, je me dis, moi ça m'impressionne, ça me subjugue. Hein. Donc la raison va produire le bonheur, la liberté de l'homme. Hein. Alors oui, dans un sens, ils ont eu raison. Sur le plan social et économique, il y a eu des avancées extraordinaires. Qui parmi vous, les dames, dirait aujourd'hui, pouh, la machine à laver la vaisselle, c'est pas nécessaire. Ou la machine à laver le linge, c'est pas nécessaire. Mais non, c'est extraordinaire. Qui pourrait dire aujourd'hui, ah oh non, moi les vacances, bouh, j'aime pas ça, bon, mon cher patron, fais-moi travailler pendant 6 semaines. Mais non, quand les Français partaient, hein, les premières semaines de vacances, il y avait 2 millions de Français qui partaient en 2 chevaux jusqu'au bord de la mer, hein. Mais voyez les gens qui couraient là dans la Méditerranée, mais c'était le paradis sur terre. Et dans ce sens-là, oui, ces évolutions ont eu du bon. Hein, mais regardez la finalité de toute chose, parce que la Bible dit qu'il faut voir la fin de toute chose. Au début, c'est toujours bien. Hein, c'est comme les mariages. Non, mais c'est l'amour fou. Enfin voilà, on se comprend. Ça peut rester bien, hein, la preuve. Mais passons. Et maintenant, nous arrivons, parce que l'un engendre l'autre, vous voyez ça? Une idéologie engendre une autre. Et comme l'autre radicalise les précédentes, ça devient de pire en pire. Ça ne peut pas s'améliorer, parce qu'on est dans le rêve, on est dans l'hypothèse, on est dans la... Enfin, je ne sais pas quoi. Donc, ben, le modernisme, ça va avoir une fin comme toutes les autres idéologies. Alors, on trouve quoi? Le postmodernisme, ça fait bien. Hein, postmodernisme, voilà. C'est une nouvelle idéologie. Elle va bouleverser le monde. Pourquoi? On passe à la prochaine dia. Vous avez son porte-parole. C'est Friedrich Nietzsche. On l'appellera le saint patron des philosophes postmodernes. Qu'est-ce qu'il a dit, Friedrich Nietzsche? Ben, une citation, hein. Encore une fois, tout n'était pas mauvais dans ce qu'il a dit. Parce qu'il y avait un tel désir d'émancipation, vous comprenez? De liberté absolue, de dire, mais laissez-nous réfléchir et imaginer des choses. Bien sûr que c'est une bonne idée, mais séparé de Dieu, hein. Donc il dit, en vérité, les convictions sont plus dangereuses que les mensonges. Vous êtes convaincu que Jésus est Seigneur? Vous savez ce qu'il a dit? Voilà. Alors, mais le but n'est pas de citer Nietzsche toute la matinée, mais encore une fois, c'est une pensée, et derrière cette pensée, il y a une idéologie. Hein? Mais alors là, elle va être poussée à l'extrême. On a déjà décentralisé l'éternité, on dit, bon, ben, pour ceux que ça intéresse, mais allez dans la pièce d'à côté. Hein? On a sorti Dieu de la pièce pour dire, ben, écoute, laisse-nous faire quand même ce qu'on a envie de faire. Mais là, maintenant, on arrive au sommet. Parce qu'avec la pensée, notamment d'un Nietzsche, on va annoncer la conclusion. Dieu est mort. Ah oui, si vous lisez les philosophes, si vous lisez Camus, si vous lisez Sartre et d'autres, qu'est-ce que ces gens-là vont dire? Tout ça, c'est de la foutaise. Arrêtez avec vos histoires, ce sont des illusions. Vous êtes en pleine illusion, qu'ils vont nous dire. Et ils le disent au monde entier, à toute la société. Et qu'est-ce que fait la société? Eh bien, pourquoi pas? On l'entend comme fout la paix, excusez-moi du terme, mais c'est à peu près ça qu'on entend. Hein? Voilà, je suis sur cette terre. Vous avez vu l'émission, ça c'est pas mourir de rire, mais l'émission sur l'au-delà, ce que les gens pensent de l'au-delà. La petite dame qui dit, moi peut-être que j'aimerais bien aller en enfer parce que ben, là-bas ils sont peut-être bien parce qu'il fait chaud. Voilà, non mais pour dire, hein. Si vous interviewez un petit peu comme ça les gens, c'est intéressant de voir ce qu'ils pensent. Donc voilà, donc on arrive à l'extrême, c'est-à-dire que Dieu est mort. Et moi, je me souviens, dans les années 60, vous avez tout un ensemble de théologiens protestants, notamment, il ne faut pas s'étonner, excusez-moi, si l'Église protestante est en train de piquer du nez, peut-être qu'elle va se reprendre, mais qui étaient dans la même idéologie, qui remettaient tout en question, c'est la théologie de la... Non, oh, mais je vous le donnerai. Coupé. on ne croyait plus au miracle. Des gens comme Bultmann, qui étaient en guillemets des grands théologiens, disaient, il faut sortir tout ce qui n'est pas raisonnable, hop, vous sortez de la Bible. Et puis vous croyez à ce qui est raisonnable. Ah, on prépare une église comme ça? Si Nicolas... la théologie libérale, mais toi, il n'a pas fait des études pour lui, pour rien, lui. Non, mais c'est vrai, la théologie libérale. Si Nicolas, dans quelques mois, commence de vous dire, bon, écoutez, je pense que ce passage-là, c'est les hommes qui l'ont... J'entends, l'Église se vide en 3 mois. Hein? D'accord? Voilà. Donc, Dieu est mort. On nie les valeurs intellectuelles et morales. Mais pourquoi avoir ces valeurs-là? Pourquoi avoir de la moralité? Pourquoi? Regardez les animaux, il faut comme ils veulent. Ben, nous, on est un peu des animaux puisqu'on est descendu du singe. Alors, hop, on saute pas de branche en branche, mais de conquête en conquête. Mais on nie tout, puisque Dieu n'est plus là. Waouh, c'est la fête au village. Hein? Tous les flanflans, tout. Voilà. Hein? Et quand on nie les valeurs intellectuelles, morales, communes à un groupe social, qu'est-ce qu'on nie? L'Église. Parce que l'Église, c'est un tout. C'est pas fragmenté, l'Église. C'est une unité. Bien sûr qu'on a des pensées différentes, des abords différents sur certaines questions. Mais globalement, on est dans la même réalité. On est tous conscients qu'il y a des grands paradigmes, des grandes vérités. On est d'accord avec ça. Et c'est ce qui fait l'Église. Donc on nie ses valeurs, on déconstruit, on défragmente, comme un jeu de duplo. Hein. Vous avez quelque chose de bien construit, puis vous avez les petits... Ah, il tape dedans, boum, ça part dans tous les sens. Hein. Et jusqu'à ce que chacun construise sa propre réalité. Jusqu'à ce que chacun ait sa propre vérité. Jusqu'à ce que chacun ait sa propre identité. Vous voyez le travail de sape? Vous commencez de voir ce qu'il y a derrière l'esprit de ce monde? Je peux vous dire qu'il y en a qui travaillent là derrière. C'est 24 heures sur 24. Il n'y a plus de vérité, mais des vérités. Et nous en sommes en plein dedans. Tout le monde a sa vérité. Alors, on peut bien respecter l'autre, mais dire, mais écoute, toi, tu as vécu cette expérience, ça, c'est ta vérité, mais écoute, moi, c'est la mienne. Alors, si on peut le partager dans l'amour, dans le respect, etc., aucun problème. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Alors, je termine cette partie avec le prochain dia, et vous comprendrez. Vous voyez, on sort maintenant, on sort de l'entonnoir. Pourquoi ? Pour vivre quoi ? Pour faire quoi ? Mais c'est le chaos. C'est le chaos. Oh. C'est-à-dire la confusion, parce que le mot chaos, si vous allez dans le dictionnaire, c'est la confusion générale. C'est le désordre épouvantable. C'est le dictionnaire qui le dit, ce n'est pas moi. Et c'est là le chaos. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun croit ce qu'il veut. Chacun a sa propre identité. C'est magnifique. Pour nous, évangéliques, dans un sens, c'est super parce que ça rejoint quand même ce qui est au départ. C'est dire que chacun a le droit de, oui, bien sûr, de prendre une décision, de faire un choix en connaissance de cause, de donner sa vie ou pas à Jésus. C'est de la démocratie, ça, si vous voulez. Et c'est dans ce sens-là que je disais, tout n'est pas mauvais, mais la finalité de toute chose. La société n'est pas consciente de cela, mais elle est dans le chaos. Aujourd'hui, plus personne ne sait qui gouverne qui. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ou alors tout le monde veut conduire, puis dit non, là, c'est moi qui veux conduire. Non, c'est moi qui veux conduire, moi, président. Mais ça conduit où ? Dans le mur. Mais on aimerait bien que ça ne conduise pas dans le mur. On ne souhaite pas des choses négatives. Mais la réalité, quand nos yeux s'ouvrent sur la réalité, on se dit, ben, ouh là 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 là. Où est-ce qu'elles nous conduisent, toutes ces idéologies ? Alors, je termine cette partie-là. C'est un monsieur Tom Houston qui peignait de façon très réaliste l'atmosphère spirituelle actuelle. En ces temps où Dieu est mort et la raison impotente, donc toute puissante, les gens voient la science, perdent le contrôle des événements, la technologie et les médias sont manipulés dans la seule perspective de profit, les affaires sont sans scrupules, le gouvernement à tous les niveaux s'avère presque impossible, ben, évidemment quand tout le monde fait son petit truc, allez gouverner quelqu'un qui fait... une masse de gens qui, où chacun voilà, a sa vérité. Et la seule vérité de chacun est celle qu'il se forge lui-même. Rien ne va plus, tout ne mène nulle part. Vous savez, l'orgueil humain, hein, c'est difficile d'accepter, de dire oui, tout ne mène nulle part. Alors je termine, presque. Hein? Alors le principe de l'entonnoir, ça vous rappelle quel passage biblique ? Donc vous avez le passage biblique. Hein? En effet, large est la porte, spacieux est le chemin. Il est spacieux le chemin, facile, on peut y aller, hein? Mais il mène à la perdition. Alors, comment réagir dans un monde tel que nous le vivons ? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, aujourd'hui ? Nous, on retourne l'entonnoir, on le prend dans le bon sens, dans celui dans lequel on devrait l'utiliser chaque jour. Prochain. Et l'histoire de l'entonnoir, qu'est-ce qu'elle nous amène ? On part de ce chemin large, de cette vie chaotique, où ça partait dans tous les sens, et on est attiré dans le centre, en fait, de l'entonnoir. Et il y a quoi, là ? Ben, il y a une porte. Entrer par la porte étroite. Étroite est la porte, resserrer le chemin, menant la vie. Ça ne fait pas envie, hein, au début, on se dit, ouh là 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 là. Moi, devenir chrétien, mais parce qu'on a une telle opinion de l'idéologie chrétienne, qu'on se dit non, ça ne m'intéresse vraiment pas. Mais on ne se rend pas compte qu'en passant par Jésus, la porte monumentale de nos vies, on va découvrir quelque chose auquel on ne peut pas penser. Parce que les idéologies de ce monde ne nous entraînent pas là-dedans. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé la porte, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un chemin devant nos pas. Ah, on découvre la vie. Et dans ce passage, le mot « vie » qui est utilisé en grec, c'est le mot « zoé ». Ce n'est pas le mot « bios ». C'est la vie telle que Dieu l'avait imaginée dès le départ. Et c'est là-dedans qu'il veut nous entraîner, une vie pleine de « pouf », ça, hein, ça saute, ça pète, ça a de la couleur, ça a de la... Voilà, c'est la vie, ce n'est pas le chaos. Alors voilà, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dernier dia. Il y a un homme qu'on a exilé, un croyant, un chrétien, Jean. On a dit, ce gars-là, c'est un hérétique, c'est un fou, c'est un illuminé, c'est tout ce que vous voudrez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre sur une île déserte. Allez, hop, à Patmos, hein, ça ne ressemble pas aujourd'hui avec les palais, avec les villas, tout ce que vous voudrez. C'était un peu voilà, un truc de pierre. Puis, il avait juste une grotte comme ça, dans laquelle il pouvait plus ou moins vivre. Mais cet homme qu'on a exilé, cet homme qui n'est plus du monde, qu'est-ce qu'il va vivre? Il va vivre une révélation. Une porte était ouverte dans le ciel. Puis une voix qui lui parle. Puis il lui dit, « Mon Jean, vas-y, extirpe-toi de cette atmosphère nauséabonde de ce monde. Puis je vais te faire voir ce qui va arriver dans la suite. » Ça, c'est être en phase avec l'histoire de Dieu. Alors que tous les grands de ce monde, ils essayaient plus ou moins de rester au pouvoir. Voilà. Jean, lui, qui est exilé sur une pauvre île de rien du tout, il reçoit l'essentiel. Il est en lien avec le ciel. Il est en lien avec l'histoire présente et future et l'histoire éternelle. Et il va pouvoir écrire le livre de l'Apocalypse dans ces conditions-là. Hein. Ce n'est pas le bureau, toi, avec Natel, avec ordinateur, machin, traducteur et tout. Bah, il reçoit ça de la part de Dieu. Donc, si on passe par la porte étroite, on va trouver un chemin de vie. Et dans ce chemin de vie, on va être en lien avec le royaume de Dieu. Alors, là, je termine vraiment. L'Église est la seule contre-culture digne d'être vécue. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui ne puisse être contre la culture en apportant l'essentiel. Et c'est là que j'aimerais vous faire prendre conscience au début de cette année, l'importance de l'Église. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Toutes ces 10 idéologies ont fragmenté. Ouh, ça part dans tous les sens. Il n'y a plus de corps constitué. Chacun est son propre corps. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que l'Église est le corps de Christ. Que l'Église est un corps bien coordonné. C'est l'esprit contraire de l'esprit du monde qui fractionne, qui envoie les gens dans tous les sens. Jésus rassemble, pas pour faire de nous des soumis, pas pour faire de nous des gens qui, voilà, des brebis bêlantes, mais pour faire sortir par sa présence en nous le meilleur. Et ça commence par l'amour. S'aimer les uns les autres, c'est un exploit aujourd'hui. Et j'aimerais que vous regardiez l'Église avec un autre regard peut-être, rafraîchi un peu. Sortez de l'Église, arrêtez de prier, arrêtez de lire la parole de Dieu, arrêtez de vivre la communion fraternelle. Et vous verrez, vous viendrez dans une année et vous me direz, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et j'aimerais que vous preniez conscience de l'importance de cette contre-culture, même si le monde n'en veut pas. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire, franchement? Nous, on continue de vivre l'idéologie chrétienne. Au plus proche, bien sûr, parce que nous aussi, on est imparfaits. On ne va pas la vivre à 100%. Mais c'est la seule culture qui peut attirer des hommes et des femmes en disant « Waouh !» Et on l'a vu encore avec Sukriti, je ne veux pas raconter l'histoire, mais une hindoue qui vient, qui débarque chez nous, qui sent une paix incroyable dans notre appartement, qui vient à la réunion de prière, qui dit « Mais je n'ai jamais entendu des gens prier les uns pour les autres », qui vient au culte, qui dit « Mais c'est incroyable c'est... !» Mais est-ce qu'on le voit encore? Est-ce qu'on en est conscient quand on vient le dimanche matin à 9h30 à l'église de réveil? Des fois, je me dis non. On n'est plus conscient de cela. Et on vit miracle après miracle. Si vous ouvrez les yeux, on vit plein de miracles dans l'église. Le monde ne vit pas, mais nous, on le vit par la grâce de Dieu. Alors voilà, j'aimerais vraiment vous encourager à réformer, puisqu'on est à la 500e anniversaire de la réforme, votre vision sur l'Église. Se dire, mais c'est magnifique, Seigneur. Tu crées un corps bien coordonné. Un jour, tu vas enlever ce corps et ça sera le chaos absolu sur cette terre. Parce que c'est l'Église qui retient toutes les choses négatives qu'il y a dans ce monde. Hein. Donc voilà. Et le jour où l'Église sera enlevée, ça sera vraiment terrible. Donc soyons fiers de l'Église. Soyons fiers de Dieu d'avoir eu cette idée-là. Et ne dénigrons pas ce qu'il a fait, son corps. Mais posons-nous la question, comment est-ce que je peux encore mieux servir l'Église pour que l'Église puisse encore être plus visible dans ce monde qui en a tant besoin? Si on ne le fait pas, on n'aurait été qu'une culture et une idéologie de plus dans ce monde. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous attires à toi. Pas simplement pour nous sauver, pas simplement pour nous dire « Oui, je t'ai préparé une demeure dans la maison de mon Père. » Mais tu as dit à ton Père « Ne les enlève pas de ce monde, Père. Ce n'est pas ce que je te demande, mais garde-les du malin. Garde-les du malin. Fais d'eux des flambeaux qui brillent dans ce monde. » Et je te remercie ce matin pour l'Église. Et je te demande que vraiment tu nous retournes intérieurement, que tu nous ouvres les yeux, les oreilles pour qu'on puisse à nouveau prendre conscience de ce miracle et qu'on puisse vivre ce que tu as prévu autant individuellement qu'en Église dans cette année 2017 qui sera de toute façon bonne parce qu'on la vit en toi. Amen. Amen.
Dimanche dernier et puis aujourd'hui, je me demande si Dieu veut nous dire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que ça rejoint vraiment aussi ce qui s'est dit dimanche dernier. Et merci à Alain, parce que c'était bien dit en particulier. C'est là qu'on voit le fruit de l'expérience. Où est-ce que j'en suis ? Où est-ce que j'en suis par rapport à ce qu'est l'Église comme contre-culture ? Où est-ce que j'en suis dans ce corps ? Où est-ce que j'en suis dans la digestion et l'assimilation de la vérité de Dieu dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans tout ce que je suis, dans toutes les dimensions de mon être ? Et vraiment qu'on puisse prendre cette sainte scène en mettant de côté, en déposant au pied de la croix ce dont on sait qu'il n'est pas bon, ce qui nous vient finalement, ces cultures, ces idéologies, qui ne sont pas bibliques. Jésus nous a donné son corps, il a livré son corps justement pour qu'on puisse aussi lui donner ce qui, en nous, vient polluer notre être. Et par son sang, il vient tout purifier. Et qu'on puisse recevoir ce qui est vrai, qu'on puisse recevoir la vérité de Christ dans nos vies.